Qui c'est qui est là ?
La percée de l'histoire.
Tiens !
Mais c'est pas vrai !
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi ?
Tous les mardis, 20h-21h sur Radio Alpa.
Ah ouais ?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes plusieurs médiateurs au sein de Manor Blanco ?
Alors, depuis cette année, on est deux médiateurs à temps plein.
D'accord, ok. Donc c'est un métier que vous avez depuis tout petit en tête ou c'est quelque chose qui vous est venu au fil du temps ?
Alors ce que j'ai depuis tout petit en tête, c'est plutôt l'histoire. Et puis en fait, quand on est petit, c'est juste qu'on ne sait pas ce que c'est, médiateur du patrimoine, donc c'est difficile de rêver un métier qu'on ne connaît pas. Et en fait, on l'apprend au fur et à mesure. Moi, j'en ai entendu parler lorsque j'étais fin du collège, lycée. Et puis après, bon, de toute façon, j'ai vu que c'était ma passion, l'histoire, je suis parti en fac d'histoire. J'ai jamais voulu être professeur des écoles, donc il fallait trouver une voie en essayant de pouvoir vivre de sa passion. C'est pas évident, j'ai essayé et puis j'ai fini par réussir, mais voilà. Après, c'est un métier qui est intéressant, qui a des contraintes aussi, hein. Déjà, il faut réussir à trouver un poste permanent, c'est pas simple. Et puis, il y a des contraintes horaires, hein. Il faut pas avoir peur de travailler le week-end, par exemple, d'avoir des heures un petit peu décalées. Mais ça reste un métier de passion, en fait. Si on est passionné, c'est super. C'est sûr que si c'est pas sa passion, il vaut mieux faire autre chose.
Ouais. C'est une question peut-être qu'on pose très souvent, mais d'où vient finalement cette passion de l'histoire ? Parce qu'on a tous une provenance différente.
Alors moi, elle vient de très loin, d'aussi loin que je m'en souvienne. Alors ça a été facilité pour moi parce que mon père était lui-même un passionné d'histoire. Donc il travaillait pas du tout là-dedans. Mais il m'a très très rapidement en fait transmis sa passion avec des livres qui parlaient d'histoire, en me faisant voir également des films, plein de choses en fait. Et donc j'ai pas de souvenir en fait de pas avoir aimé l'histoire. C'est vraiment une passion de toute jeunesse.
D'accord. Vous parliez il y a quelques instants justement de permanence de métier. Comme votre parcours semble indiquer justement que vous avez un petit peu bougé dans plusieurs régions, plusieurs départements. Est-ce un choix volontaire ou non ?
Un peu les deux. Moi au départ, ma première expérience c'était à Bécherel. C'est là d'où je viens en fait, près de Dinan en Bretagne. C'était intéressant mais c'était auprès d'une association et puis bon ça allait vite... partir sur des métiers un peu galères, quoi, avec vraiment des mi-temps, des choses comme ça. Donc, bon, je vais pas chercher à aller plus loin. C'est sur ce village-là, en fait, que j'avais fait mon mémoire. Donc, au départ, c'était plutôt là que je voulais travailler. Après, quand on est jeune, ça nous va de bouger, en fait. Hein. Ouais. Moi, j'ai voulu aller découvrir un petit peu autre chose. J'étais jamais sorti de la Bretagne. J'avais vécu à peu près partout en Bretagne, mais jamais en dehors. Donc, le Val-de-Loire, ça a été une expérience intéressante. Et j'avais envie, en fait, de voir une grosse structure de patrimoine, voir comment ça fonctionne quand il y a 300-400 000 visiteurs par an. Ça change un petit peu de ce que je connaissais. C'est vraiment une grosse usine. Mais après, c'est extrêmement formateur. Ça permet aussi de voir ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais c'est très intéressant.
Pourquoi la Sarthe dans ce cas-là ?
Alors la Sarthe, pour le coup, c'est un peu le hasard. Moi, je connaissais un petit peu quand même, parce que justement, quand j'ai habité en Touraine, je traversais la Sarthe pour rentrer chez moi en Bretagne, près de Fougères. Donc, j'ai découvert un peu la Sarthe en faisant des haltes, d'abord au château du Lude. Je me suis dit, c'est pas mal ça comme château, il y a des trucs sympas en Sarthe. Et en faisant des petites haltes, en fait, pour un pique-nique, des choses comme ça. C'est vrai que la route, au départ, est très droite et donne pas très envie. Mais en fait, il faut sortir de ces routes longilignes, là, qui sont assez catastrophiques entre la Flèche, Sablé et jusqu'à Laval. Et en fait, dès qu'on fait un petit pas de côté, on découvre des jolis villages. C'est là que j'ai découvert Solay, Magnières-sur-Vègre, la vallée de la Sarthe, et puis quelques autres. Joli petit coin de patrimoine. Donc quand j'ai vu l'offre paraître, en fait, je venais de terminer un contrat, pareil en Bretagne, près de Fougères, dans un château. Et le propriétaire était quand même quelqu'un de pas très recommandable, donc je n'avais pas envie de continuer non plus. J'ai vu l'offre, j'ai répondu à une seule offre, parce que ça parlait du Moyen-Âge déjà, ça c'était cool, parce que ça fait longtemps que j'avais travaillé sur le Moyen-Âge, et c'est quand même une passion d'enfance. Et en fait, ça correspondait globalement à ce que j'avais fait dans mon parcours. Donc, j'ai postulé et j'ai pas été déçu parce que c'est un poste qui est vraiment extrêmement intéressant. Et c'est surtout déjà un bâtiment en lui-même qui est vraiment extraordinaire. Donc, vraiment, je tombais complètement amoureux de ce bâtiment. Et puis, plus généralement, en fait, de l'écrin qu'il y a autour, hein, c'est-à-dire Agnières-sur-Vègre, qui est vraiment un village magnifique et qui est peuplé de vrais amateurs de patrimoine. Quoi. Ils défendent leur patrimoine bêtes et ongles. Il y a un tissu associatif qui est quand même assez dense. Il y a quand même que 400 et quelques habitants. Et malgré tout, il y a des manifestations régulièrement, des passionnés de photos, des passionnés de patrimoine, voilà, plein d'activités. Et on en retrouve finalement un petit peu autour, dans les jolis villages de la région. On peut citer Avoise ou Parçay, par exemple, sur la vallée de la Sarthe, ou Chantenay-Villieu, où maintenant j'habite, et qui est juste à côté du manoir.
Vous parlez beaucoup du patrimoine rural. Le patrimoine urbain, par exemple, vous a jamais tenté Le Mans ou une autre ville, d'ailleurs, dans l'Ouest?
Alors, c'est vrai que ça m'a pas intéressé. C'est qu'en fait, moi, j'ai fait mon mémoire déjà sur un village de caractère, en fait, qui était un village extrêmement important au Moyen-Âge, mais comme beaucoup de jolis villages aujourd'hui, comme souvent des petites cités de caractère, ont périclité. Et ils ont gardé un tissu... urbain, entre guillemets, en tout cas un bourg extrêmement bien conservé. Et donc moi, j'ai commencé dans cette voie-là. Donc forcément, après, quand on trouve plus facilement des possibilités dans cette voie, parce que c'est une voie qu'on a creusée, en fait, donc on se sent plus à l'aise. Et puis, moi, je viens de la campagne, en fait, je suis habitué à voir des petits villages comme ça depuis tout petit, donc ça m'intéressait de toute façon pas mal, quoi.
Partie de curiosité, d'ailleurs, pour revenir un peu à vos études, quel était le sujet de votre mémoire?
Alors le sujet de mon mémoire, je l'ai fait en deux fois, donc en M1 c'était sur Becherel, ça montait jusqu'à l'époque moderne en fait, donc la richesse de Becherel s'est faite autour de la toile, comme la toile de chanvre, comme beaucoup de villages en Haute-Bretagne en fait, et c'est pas une petite richesse, c'est-à-dire que c'était vraiment les villes comme Dinan, Vitré, Fougères, Saint-Malo, la richesse historique vient de là, c'est-à-dire qu'ils équipaient pas seulement les voiles des bateaux français, mais les voiles des bateaux, des galions espagnols qui traversaient l'Atlantique, et c'était une immense richesse. La plus belle part, c'était pour Saint-Malo, hein, qui était une des villes les plus importantes de France au XVIIe siècle, mais tout l'arrière-pays, en fait, était également extrêmement important. Donc, j'ai perdu le fil de votre question, par contre.
Le sujet de votre mémoire.
Ah oui, donc,
de vos mémoires.
Ça commençait là, et j'allais jusqu'au XXe siècle, en fait, pour voir un petit peu le parcours de ce village, en fait, avec un âge d'or, un déclin au XIXe siècle, et on va dire une vieille bourgeoisie un peu décadente qui vivait là encore au XXe siècle, voir un peu son devenir. Et j'avais déjà en tête, en fait, dans un Master 2, dont je savais que ce serait un développement de projet en tourisme culturel, d'étudier, on va dire, les 30 dernières années, parce que c'est un village, en fait, où en 89 s'est installée une troupe assez originale de libraires, en fait, de bouquinistes d'occasion. Et ils sont arrivés, tout de suite, ils ont installé 12 librairies d'occasion. Et sur ce fond de vieille bourgeoisie décadente, entre guillemets, hein, j'espère qu'ils seront pas avec son froid, mais je pense pas qu'ils écoutent.
On les embrasse, bien sûr.
Je pense pas qu'ils nous écoutent.
On embrasse la bourgeoisie décadente.
La plupart, ils doivent être. Je sais pas s'ils sont encore en vie. Mais en gros, ça a fait des étincelles, quoi. Clairement, c'était plutôt, du coup, les nouveaux arrivants, des gens un peu anards, qui arrivaient avec tout un univers qui ne fonctionnait pas du tout avec avec les villageois en place, avec une partie des villageois en place, en tout cas la mairie, des choses comme ça. Et c'était très intéressant à étudier, en fait, parce que c'est un cas un peu unique en France avec ce type vraiment d'arrivée exogène, mais il y a énormément de villages, en fait, qui maintenant essaient de vivre un peu du tourisme et qui cherchent un petit peu un filon, une voie. Alors souvent c'est des artisans, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et j'avais envie d'étudier ça, en fait, mais vraiment en profondeur, en aller voir tous les différents acteurs, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe quand un village est un peu en déclin et qu'on propose des solutions pour développer le village, mais que c'est un peu en contradiction avec ce que les personnes défendaient avant. À Fougères, j'avais fait une étude un petit peu là-bas aussi. C'est assez intéressant sur la chaussure, en fait. C'était une ville extrêmement importante où on a développé une usine de chaussures pendant plusieurs décennies, au point d'être une des premières places en France pour la chaussure. Et dans les années 90-2000, enfin bien avant, en fait, dans les années 60-70, quand ça a commencé à décliner, il a fallu un peu de temps, en fait, avant que les premières personnes disent on pourrait peut-être développer un peu de tourisme, parce que on a un château qui est exceptionnel et on a un joli patrimoine, et on pourrait peut-être essayer de développer aussi le patrimoine, l'histoire autour de la chaussure. Et il y a encore une dizaine d'années, c'était pas possible. Enfin, c'était trop compliqué, parce que c'était une histoire, en fait, qui était trop récente, et surtout qui voulait dire licenciement, qui voulait dire des gens qui étaient formés là-dedans. Et des parents qu'on connaissait, qui n'avaient pas forcément envie qu'on ouvre ces plaies-là. Alors ça va sans doute se faire, parce que c'est une histoire intéressante, et il faudrait conserver ce patrimoine qui est intéressant. Mais moi, c'est toutes ces dynamiques-là, en fait, qui m'intéressaient. Et forcément, on arrive en Monard de la Cour aussi, où on ouvre un bâtiment qui parle du Moyen-Âge, alors que c'était pas les dernières thématiques, forcément. C'est intéressant aussi. Donc toutes les questions qui ont pu se poser au Manoir de la Cour, c'est des choses que j'avais un peu anticipées en les étudiant dans d'autres endroits. Et je pense que c'est quand même utile de ne pas arriver, en fait, avec ces gros sabots d'universitaire à dire on va faire comme ça et vous n'allez pas faire autrement.
C'est sûr. Et en parlant du Manoir de la Cour, quelles sont vos principales actions au Manoir de la Cour?
Alors, les principales actions en termes de travail ?
C'est ça, exactement.
Alors là, en ce moment, par exemple, avril, mai, juin, c'est la grosse saison scolaire. Donc, on accueille vraiment beaucoup, beaucoup d'écoles. Donc là, il y a eu 50 enfants aujourd'hui. Là, la semaine dernière, je ne sais plus, on doit être à 150, quelque chose comme ça. Donc, ça nous prend pas mal de temps, parce qu'il faut préparer les ateliers. Ça doit annoncer quelque chose. Des fois, c'est assez long. Il faut un petit peu de matériel. Donc, voilà, ça prend un peu de temps. Puis après une journée, il va falloir faire 3 ou 4 visites guidées pour les scolaires ou des ateliers. Voilà, on est bien, bien rincé. Donc, en mai-juin, c'est pas mal ça. Après, on a un petit peu de programmation culturelle aussi. Hein. Le week-end du 18-19 juin, on avait les journées de l'archéologie. Qu'on investit parce que le manoir a des choses à raconter sur, au niveau de l'archéologie. Donc on a une programmation qui n'est pas aussi dense que l'été, mais qui est quand même voilà, avec pas mal de choses qui reviennent assez régulièrement. Et donc on jongle un petit peu entre la préparation de la saison estivale, l'accueil des scolaires, la communication également qui nous prend pas mal de temps. Il faut savoir qu'on gère à peu près tout au niveau du manoir, donc ça va être aussi la comptabilité par exemple. Hein, et donc, il y a à peu près toute la gestion administrative aussi à faire, ça fait aussi partie du métier.
D'accord, très bien.
Eh ben, on va continuer à parler cette fois-ci plus en détail du manoir de la cour. Dans un instant, on va juste se faire une petite pause musicale en écoutant Unfamiliar de Tom Perse. Je le prononce bien sûr à l'anglaise, comme
Tom
d'habitude. Tom Perse pour les francophones, bien sûr. Et on se retrouve donc juste après.
Another place, so I could be another thing.
qui est là ?
La percée de l'histoire.
Tiens !
Mais c'est pas vrai !
Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi ?
Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Ah ouais ?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire. Nous parlions à l'instant du manoir de la cour à Asnières-sur-Vègre et on va dès maintenant vous en faire un petit peu l'histoire avec Maël Leray qui est notre invité ce soir.
Exactement, on va revenir sur l'histoire de ce lieu. Bon, c'est presque de la triche parce que je la connais un petit peu l'histoire, mais bon, c'est pas grave, je poserai les questions. Donc Maël, on a dit que c'était un manoir médiéval, mais qui l'a fait construire et quand ?
Alors, les constructeurs, on a fini par les connaître. Pendant longtemps, on ne les connaissait pas trop, puisque c'est un bâtiment qu'on a surnommé à partir du 19e siècle le Temple. Et encore, les Agnérois, encore aujourd'hui, l'appellent parfois le Temple. Ça vient sans doute du fait qu'il a une vague ressemblance avec une commanderie templière. Et donc forcément, bah, ça faisait fantasmer les premiers historiens du 19e siècle. C'est vachement cool hein, d'avoir des Templiers. Bon, les études historiques assez sérieuses qui ont été menées à partir des années 80-90 ont vite permis de savoir finalement qui étaient les commanditaires. Et ce sont des personnes qui sont pas loin d'ici, puisque ce sont les chanoines du chapitre cathédrale Saint-Julien de la cathédrale du Mans. Donc c'était une de leurs 40 seigneuries dans le Maine. Autant dire que c'est quand même des seigneurs qui ont une sacrée surface financière. Et Asnières, il y a plusieurs faisceaux d'indices qui laissent supposer que c'est une ou en tout cas une des deux, trois plus importantes de leur seigneurie.
Et quand du coup on a fait construire ce manoir ?
Alors l'archéologie du bâti à partir des années 90 laissait supposer qu'on était dans le début du 14e siècle et à la fin des années 2000, donc 2009-2010, il y a eu deux campagnes de datation par la dendrochronologie. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non, je ne pense pas que les auditeurs...
Alors la technique de datation la plus connue, c'est le carbone 14 qui permet d'avoir une estimation. En fait, alors je ne vais pas expliquer la technique, c'est assez, mais en gros, ça permet d'avoir une fourchette assez précise et c'est une technique qui est très souvent utilisée à partir du moment où on retrouve des charbons. Donc c'est quand même des choses qui sont assez communes, par exemple pour les foyers, donc on peut dater. D'ailleurs, il y a des charbons qui ont été retrouvés dans le manoir et qui ont pu permettre de dater l'occupation du site dès la fin du 9e siècle. Mais là, ce n'est pas la construction du manoir. La construction du manoir qu'on connaît aujourd'hui, c'est donc la dendrochronologie qui, en fait, est l'étude des cernes de croissance du bois. Donc si on a un bois d'origine, comme c'est le cas, en fait, par exemple, dans la charpente du manoir ou dans la plupart des solives, eh bien, on va pouvoir faire des carottages, donc des prélèvements, et voir apparaître les cernes de croissance. Et ce que les spécialistes peuvent reconnaître, eh bien, c'est les années exceptionnelles, soit des printemps vraiment où ça a très, très peu poussé dans toute une région. Et donc, on a un cerne qui est extrêmement faible et qui peut se reconnaître. Ou à l'inverse, des printemps énormes où vraiment là, les bois ont beaucoup, beaucoup poussé. Et en fait, on va faire une frise et reconnaître les écarts-types entre, s'il y a eu 10 ans, entre un printemps très, très faible en termes de croissance et 10 ans après, un printemps très, très important. Et bien, c'est cette alternance, en fait, par une frise qui va pouvoir être reconnue. Alors, c'est un travail de longue haleine, hein, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup, beaucoup de prélèvements dans une même région. Et ensuite, même sur place, il faut faire pas mal de prélèvements pour qu'ils soient à peu près fiables. Là, c'est une technologie maintenant qui est quand même assez bien, qui est très très fiable. Et là, les datations du manoir étaient extrêmement claires. Et donc, on est à la toute fin du XIIIe siècle. Le gros œuvre, donc la charpente, a été datée entre 1293 et 1295. Et les éléments intérieurs, comme la tribune en bois du premier étage, sont datés de l'automne-hiver 98-99. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement précis. Et donc, a priori, au bout de 6 ans, le chantier était terminé.
Et pourquoi les chanoines ont décidé de construire ce manoir à Asnières-sur-Vègre ?
Alors, déjà, avant le manoir, on avait autre chose. On avait une grange gia, donc une grange dîmière, comme ça devait être le cas dans pas mal de leur seigneurie. Alors, pourquoi, par contre, ils font un tel manoir alors qu'ils habitent déjà dans le quartier canonial du Mans, hein, ils n'ont pas besoin d'habiter régulièrement à Asnières. Peut-être pour de rendre la justice de temps en temps, mais on peut faire quelque chose d'un peu plus sommaire. Là, on est quand même sur un bâtiment qui fait 37 mètres de long, qui est une belle bâtisse quand même, hein, pour le village d'Asnières. On le voit de loin, ce manoir. Alors, on ne sait pas exactement, il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est les troubles qu'il y a à la fin du XIIIe siècle, puisque là, on a deux personnages très importants dans l'Occident médiéval. C'est le roi de France, Philippe le Bel, et le pape Boniface VIII, qui se querellent assez fortement, et notamment sur la question de l'investiture figure des évêques, puisque les évêques sont des personnages extrêmement importants au Moyen-Âge. Et donc, savoir qui va les nommer, évidemment, bah, c'est très important, parce que c'est, ça permet de, voilà, d'asseoir son pouvoir. Et Philippe le Bel veut cette nomination. Il respecte pas mal les chanoines du chapitre cathédral du Mans, parce qu'en général, il choisit parmi les chanoines, ce qui leur va très très bien. Comme ça, l'évêque est un chanoine. Par contre, à la fin du XIIIe siècle, eh bien, un nouvel évêque est nommé, et ce nouvel évêque, donc nommé cette fois-ci par le pape, Boniface VIII, ne va pas être choisi par les chanoines. Ce qui ne va pas trop leur plaire, et donc il va y avoir des grosses bisbilles à la fin du XIIIe siècle entre le chapitre cathédral et l'évêque, à tel point qu'il y a une milice qui est armée par les chanoines pour se défendre contre l'évêque. Donc c'est clairement pas la bonne entente. Et c'est pile dans ces années-là, en fait, hein, vraiment, que le manoir de la cour est construit. On sait que 3 chanoines avaient des droits sur la seigneurie d'Asnières. Hein. Là, il y a eu un travail d'un historien qui s'appelle Hugo Meunier, qui a fait un travail remarquable et qui l'a montré. Donc ces 3 chanoines, c'est le doyen, en gros le chef des chanoines, le chantre, celui qui s'occupe des chants liturgiques dans la cathédrale, hein, fonction extrêmement prestigieuse au Moyen-Âge, et le troisième, c'est l'écolâtre, qui dirige l'école cathédrale, qui est à ce moment-là en gros le top du top, hein, en termes d'éducation. Donc ces 3 chanoines, qui sont les chanoines les plus importants, ce sont les 3 qui ont des droits sur la seigneurie d'Asnières. Donc voilà, ils se font construire un beau manoir, dans ce cadre politique un petit peu compliqué, et on peut supposer, voilà, que c'est pas un hasard. Après, on manque de texte, donc est-ce que c'est vraiment pour ça? On peut le supposer très fortement, mais voilà, ça, on reste encore à l'étape d'hypothèse.
Et le manoir, c'est pas uniquement un lieu de vie. Si c'est un lieu seigneurial, il y avait toute une partie justement dédiée à aller au pouvoir seigneurial, du coup.
Oui, on va avoir donc la résidence aristocratique qui prend à peu près la moitié de l'étage. Et puis l'autre moitié va être occupée par une grande salle, hein, qui est très très haute de plafond, qui fait 115 mètres carrés également, donc c'est une belle pièce. Et alors qu'on va appeler régulièrement les aulas, hein, dans les châteaux, et en fait qui correspond à la salle d'apparat, qui était présente dans tous les manoirs et les châteaux médiévaux. Alors plus ou moins grande en fonction de l'importance des seigneurs. Alors beaucoup ont été cloisonnées par la suite, hein, donc elles sont beaucoup plus petites maintenant. Mais dans certains cas assez exceptionnels, eh ben on les retrouve en entier. Donc il en reste quelques-uns quand même, hein, mais le manoir fait partie de ces salles, en fait, qui ont gardé leur taille, leur volume d'origine.
Et comment évolue le manoir avec la grande histoire, si je peux l'appeler comme ça? Est-ce qu'après le Moyen-Âge, il est totalement abandonné, ou il continue d'être un lieu seigneurial?
Alors, l'âge d'or du manoir, c'est clairement fin du XIIIe siècle et courant du XVe siècle. Là, vraiment, c'est le centre de la seigneurie d'Asnières. C'est là qu'on va collecter vraiment toute la nourriture, tous les impôts, en fait, hein, collectés pour les chanoines, dans les celliers. Tout ça ensuite repart vers le Mans. Donc là, c'est clairement l'âge d'or. C'est là que les aménagements les plus importants sont faits. À partir du XVe siècle, ce manoir est revendu à plusieurs familles, en fait, hein, notamment la famille de Tessé, qui est assez connue au Mans, hein. Ça, c'est la branche importante, mais il y a des branches cadettes également. Et là, c'est une branche cadette qui va racheter le manoir. Alors, c'est une famille qui a de l'argent, mais moins que les chanoines, quand même. Et nous, ça nous arrange plutôt, parce qu'en fait, ils vont faire des aménagements. Par exemple, les escaliers, galeries en bois, ça, c'était à la mode au XIIIe siècle. Au XVe, c'est démodé, donc on ne veut plus en entendre parler. Et à la place, on fait construire une tourelle d'escalier. Il faut une tourelle d'escalier dans un manoir de la fin du XVe siècle. Le manoir de la cour n'y déroge pas. Mais c'est une tourelle d'escalier déjà qui n'est pas énorme, hein, par rapport à la taille du manoir. On en connaît des bien plus grandes, comme au manoir de Beaumont-sur-Sarthe, par exemple, où là, elle est 2 fois plus grande, la tourelle d'escalier. Et on fait quelques aménagements intérieurs, mais qui ne sont pas non plus extrêmement importants, et dont une partie également sont réversibles. Et c'est un petit peu ça qui va se passer tout au long de l'histoire du manoir. On a, voilà, plusieurs familles nobles qui rachètent le manoir comme ça au XVe, XVIe siècle, et on a un déclassement progressif. C'est-à-dire que les seigneurs désormais de la région ne vont plus tellement habiter dans le manoir, parce qu'il est complètement démodé, hein, il est vraiment à la mode de la fin du XIIIe, début XIVe siècle. Donc autant dire qu'au XVIIIe, on ne veut pas en entendre parler. Il est racheté au XVIIIe siècle par une grande famille, la famille d'Andigné, qui est une grande famille de l'Anjou, et qui ne s'intéresse pas du tout à l'architecture du manoir. Hein. Ils veulent une espèce de mini-Versailles, hein, comme tout le monde au XVIIIe siècle. Ils vont acheter la cour plutôt pour les terres qui sont autour. Ça, ça les intéresse. Et ils vont installer un métayer à l'intérieur. Donc ce métayer, lui, ne va plus s'installer dans les anciens appartements seigneuriaux. Il s'installe au rez-de-chaussée, dans des salles plus petites, hein, qui correspondent plutôt au confort de l'époque. Et en fait, bah, la grande salle de justice, la salle d'apparat, elle va servir désormais de grange. C'est-à-dire, ça devient un espace de stockage de foin, de paille. Il y a même une petite porte qui est percée pour pouvoir jeter les ballots de foin en étant dans la rue. Donc tous ces aménagements, en fait, bah, ce sont quand même des aménagements assez légers et ça va permettre de, bah, de conserver notamment quelques fragments de fresques médiévales dans la salle d'apparat. Les cheminées du XIIIe siècle sont également encore en place. Il y en avait 4 à l'origine, il en reste encore 2 aujourd'hui qui sont intactes. C'est assez rare en fait, hein, parce que bah, si ce bâtiment avait été encore un petit peu à la mode du XVIIe siècle, on aurait bazardé tout ça et on aurait fait une belle cheminée à la mode du XVIIe siècle. Sans doute très chouette, mais sauf que les cheminées de fin du XIIIe, c'est beaucoup, beaucoup plus rare et nous, on est contents de pouvoir les retrouver.
Donc aujourd'hui, le lieu est un musée, mais avant d'arriver au musée, je suppose qu'il y a eu beaucoup de restaurations et de travaux, notamment archéologiques ou du coup d'androchronologie.
Oui, alors le manoir a subi pas mal de vicissitudes au 19-20e siècle. Hein. Il a servi d'école, il a servi de mairie, il a servi de logement ouvrier, il a été divisé en 7 appartements, donc il y avait des cloisons absolument partout. Et en 72-73, eh bien, la mairie décide de racheter le bâtiment qui était devenu insalubre hein, pour faire plein d'appartements. Et bah, se pose la question, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc il a échappé au démontage pierre par pierre. Ça, il y avait, je pense, un intérêt patrimonial quand même, il a été sauvé assez largement. Mais bah ensuite, qu'est-ce qu'une mairie de 400 habitants peut faire d'un tel bâtiment ? Il va falloir réfléchir à ça. Ça devient la salle des fêtes pendant un moment. Donc beaucoup d'Agnières-Rois viennent nous voir. Moi, j'ai fait telle fête dans les années 70, 80, 90. Donc il y a une mémoire autour de ça. Et puis bah, finalement, c'est une association en fait, dans les années 80 qui existe encore, hein, l'association Patrimoine d'Agnières, qui va vraiment s'intéresser à ce bâtiment, faire des recherches historiques de plus en plus sérieuses et qui vont amener en fait, bah, les monuments historiques à s'intéresser à ce bâtiment jusqu'à le classement en fait, qui a lieu en 1991. Et à partir du moment où le manoir est classé, il va pouvoir être pris en charge hein, et on va avoir des études historiques à partir des années 90 par plusieurs archéologues. Et donc déjà, il va être sauvé, c'est-à-dire qu'ils vont mettre une nouvelle toiture en tuiles. Ils vont le faire en sorte qu'il puisse traverser les âges. Mais il va rester encore vide pendant quelques temps, parce que bah, qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment, en fait ? Et donc, pendant encore à peu près 10 ans, il va y avoir pas mal de questionnements, pas mal de projets. Et ça finit par aboutir à la fin des années 2000, en fait, toujours sous l'impulsion de l'Association du patrimoine d'Agnières, mais cette fois-ci épaulée par la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, qui, avec ses 30 000 habitants, évidemment, a plus de possibilités financières qu'Agnières. Et en fait, c'est elle qui va finir les travaux au début des années 2010.
Et justement, parmi ces projets, on a donc notamment l'exposition sur les manoirs médiévaux qui vont dont on reparle justement dans un instant. Et on va s'écouter une musique que vous avez choisie, Maëlle Leray, c'est Cold Sweet du groupe parisien Serpent. Pourquoi ce choix rapidement ?
C'est un groupe que j'apprécie beaucoup depuis pas mal d'années. C'est le groupe du chanteur Lescope qui avait fait quelques albums qui m'avaient beaucoup plu il y a quelques années maintenant. Et je viens de le voir en concert il y a une semaine en plus, c'était super. Donc voilà, je voulais juste leur rendre hommage.
Et donc on s'écoute Cold Sweet du groupe parisien. J'ai dit Serpent, exactement. Oui.
c'est qui est là ?
La percée de l'histoire.
Tiens !
Mais c'est pas vrai !
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi ?
Tous les mardis, 20h-21h sur Radio Alpa.
Ah ouais ?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour son émission spéciale Portrait d'Histoire, justement numéro 15, en compagnie de Maëlle Le Ray qui nous présente le manoir de la cour et maintenant en plus en détail cette exposition sur les manoirs médiévaux du Maine, n'est-ce pas mon cher Thomas ?
Oui, tout à fait. Cette exposition qui a été lancée le 18 juin 2022 et qui va aller jusqu'au 6 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui va retracer une exposition temporaire sur les manoirs médiévaux dans le Maine, réalisée avec, bien évidemment, l'Association du patrimoine d'Asnières. Alors, cette exposition concerne tout le Moyen-Âge ou c'est sur les mêmes périodes que le manoir de la cour ?
Alors, c'est globalement sur les mêmes périodes que le manoir. Ça commence un petit peu plus anciennement, puisque l'idée donc, de cette exposition a germé dans l'esprit de l'Association du patrimoine d'Asnières et de son président Hervé Delaune. Et l'idée était vraiment de voir un petit peu autour d'Asnières, autour de la cour, qu'est-ce qu'il existe comme bâtiment un petit peu comparable. En fait, c'est parti de, déjà, ça part d'un inventaire qui est fait dans les années 80-90 par un groupe de chercheurs qui existe toujours, en fait, et qui est spécialisé dans les manoirs médiévaux. Donc là, on est vraiment des pointures internationales, hein, comme l'anglais Gwyn Marion Jones, par exemple, ou le français Emmanuel Guitou, qui travaille, qui est archéologue au Maine-et-Loire, dans le Maine-et-Loire, pardon. Donc ça, c'est l'inventaire. Et puis, au moment de la création de l'exposition permanente du manoir de la cour, donc fin des années 2000, début des années 2010, un travail de recherche est mené pour la mettre en place. Et évidemment, il y a une telle masse d'informations qu'une bonne partie n'est pas exploitée. Et ils se rendent compte qu'il y a quand même un inventaire extrêmement intéressant, enfin un recensement, pour être précis, un recensement intéressant. Et donc c'est à partir de ce travail-là, un travail de longue haleine, que germe l'idée d'une exposition temporaire pour présenter les bâtiments principaux, on va dire à 25-30 km autour du manoir de la cour. Mais au-delà de ce simple recensement, l'idée est également de faire un portrait type du manoir au 12, 13, 14, 15e siècle, en gros jusqu'aux reconstructions de la guerre de Cent Ans, où là vraiment on arrive sur d'autres types de manoirs, alors que pendant deux siècles et demi, on a une constante, en fait, on peut établir un portrait type. Alors ça n'empêche pas la diversité, hein, ces manoirs sont très variés, on l'explique dans l'exposition, mais on va retrouver quelques petits points communs quand même, et l'idée c'est justement de les montrer.
Et est-ce qu'il reste beaucoup de ces manoirs dans l'ancienne province du Maine ?
Oui, en fait, il en reste beaucoup, puisque c'est une des provinces qui est la plus riche de ce type de bâtiments, d'édifices. Le souci, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup moins bien conservés que les manoirs des 15-16e siècle. Là, vraiment, on en trouve énormément dans la région. Hein, ils sont assez faciles à voir, il suffit de se balader dans la campagne, on en trouve très facilement. Certains sont vraiment très, très beaux, d'ailleurs. Les manoirs plus anciens, en fait, ont souvent été très, très remaniés, ont été vraiment profondément modifiés, puisque, évidemment, ce n'était pas du tout les mêmes standards de confort que ceux du XVIe siècle. Par exemple, les chambres, à cette époque-là, sont des chambres très vastes, donc c'est cool, hein, d'avoir une grande chambre, mais alors, par contre, pour se chauffer, c'est pas cool. Donc, ça correspond plus tellement aux standards de confort dès les 15-16e siècle. Et puis voilà, on a des usages qui changent, en fait, des modes qui changent également. On cherche à avoir des bâtiments un peu plus éclairés, un peu plus ouverts, alors que ceux des périodes plus anciennes ne correspondent pas à ces standards. Donc il en reste, mais ils sont assez peu lisibles dans le paysage, sauf quelques-uns. C'est vrai que le manoir de la cour, pour le coup, est très facile parce qu'il a été assez peu modifié, hein, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure. Mais on en a qui ont subi beaucoup plus de transformations. Néanmoins, il en reste quand même des très très beaux édifices dans la région. On peut citer par exemple à Précigné, donc le manoir de Sourches, qui est vraiment un très très beau manoir, alors qui est à la frontière avec l'Anjou. Hein. On est même sur l'ancienne, on est dans la Sarthe, mais c'est l'ancienne Anjou. Mais il en reste d'autres. Hein. Vraiment du côté Maine, à 3 km du manoir de la cour, on a le logis de Fontenay, par exemple, qui est exceptionnel, avec une cave voûtée qui est absolument remarquable, et même un passage souterrain qui rejoint le nouveau manoir du XVe siècle et qui fait face à l'ancien manoir du XIIIe siècle. C'est absolument exceptionnel comme site.
D'accord. Et ces manoirs sont-ils des propriétés privées ou sont-ils maintenant dans le domaine public comme le manoir de la cour ?
Alors, dans le cadre de l'exposition, le seul qui est dans le domaine public, c'est le Manoir de la Cour. Tous les autres sont des propriétés privées. Certains sont très très bien restaurés, hein, et donc sont vraiment restaurés par des passionnés de patrimoine qui y consacrent toute leur vie, parfois même sur plusieurs générations. On peut citer, alors ça va être côté Mayenne, mais ça fait partie du Maine, le Manoir de la Grande Courbe à Bray, qui est vraiment remarquable. La restauration, elle est exceptionnelle. Sinon, dans le Maine, on peut citer également le logis de Moulins à Saint-Rémy-du-Val, avec une aula extraordinaire du XIIIe siècle. Voilà, il y a vraiment des très très beaux bâtiments, mais je ne crois pas qu'il en existe énormément dans le domaine public.
D'accord. Et donc, sur votre site internet, j'ai vu que cette exposition est visitable, donc. Est-ce qu'on peut avoir une visite guidée ?
Oui, on peut avoir des visites guidées. Alors, les visites guidées du Manoir de la Cour, on en fait tous les jours. L'été, c'est même deux fois par jour, de 15h à 17h jusqu'au 31 août. Après, on va faire également des visites commentées de l'exposition. Là, donc, il y a trois dimanches dans l'été où on sera vraiment spécifiquement à parler de l'exposition. Donc, de comparer le Manoir de la Cour avec les photos qu'on a dans l'exposition, les différents plans. Et on fait une petite sortie dans le village à la fin pour montrer d'autres formes médiévales qu'on retrouve dans Asnières.
D'accord. Et quel est le tarif ?
Alors, le tarif à l'année, c'est 5€ pour les adultes, tarif plein. Après moins de 18 ans, c'est 3€ pour les tarifs réduits également. Et ensuite, c'est gratuit moins de 7 ans.
Voilà, cher auditeur, maintenant, vous savez à peu près tout sur l'exposition.
Oui, parce qu'il n'y a pas de tarif supplémentaire pour l'exposition. C'est compris dans le tarif, j'ai vu, donc ça vaut le coup.
Visite, manoir et exposition.
Oui, vas-y. Non, j'ai activé
visite
ton micro.
Manoir visite, manoir et exposition.
Voilà, bravo Salouane. Donc n'hésitez pas à aller voir, évidemment, tout sera... Enfin, vous pouvez aller également suivre les réseaux sociaux du Manoir de la Cour, présent sur Facebook, Instagram, et j'ai pas vu pour Twitter. Est-ce que c'est présent sur Twitter, le Manoir de la Cour ?
Non, on se contente de Facebook et Instagram.
Et c'est déjà beaucoup, ouais. Je ne vais pas dire le contraire. On passe dans un instant au portrait d'histoire. Juste avant, on va s'écouter donc une dernière musique. Cette fois, un petit peu bretonne, puisque
le
j'ai
coup
vous
de
dire...
cœur des vacances.
J'ai vous dire que vous aviez des origines bretonnes, en effet. Et c'est là, on s'est rendu en Bretagne et on a eu un coup de cœur pour cette chanson exceptionnelle.
Est-ce qu'on peut raconter l'anecdote
Allez, vas-y, raconte rapidement.
Comment on l'a découverte, cette chanson, me direz-vous ? Parce qu'en fait, on a été à Concarneau le 21 juin pour la fête de la musique.
Dans la ville close.
Et puis, bon, la moitié des groupes n'étaient pas là, mais oui. À la place, nous avons eu un monsieur qui était visiblement assez éméché, qui mettait en boucle la musique que vous allez découvrir dans un instant.
De quoi ?
Ah d'accord, je viens de comprendre, c'est celle qu'on a écoutée tout à l'heure.
Exactement. Avec
son
jus d'orange
dans sa canette tempe métallique.
Accompagné d'eau, bien sûr, à l'intérieur. Et en effet, c'était le chanteur de la soirée. On va vous proposer une version concert, c'est celle qu'il diffusait en boucle. Et puis on se retrouve donc juste après pour faire le portrait d'histoire de Maël Leray.
Survivre l'ennemi pour l'avenir des femmes. Saint-être de nos vies, saint-être de nos âmes. On va se faire, c'est toujours plus fort. Il s'en va la patronne. Pour les autres, là, les fruits qui vont en jouant les malades. Qui est tout en faisant en compte, mais à qui on parle. Car y'a des lits où Dieu l'a en tes mains. Hey. Survivre ennemi de tout ce qui nous condamne. Revenir un sourire, un démon qui nous donne. Survivre ennemi pour l'âme et les femmes. Seul maître de nos vies, seul maître de nos âmes. Il fera encore sans doute noir quand on entrera le corps. La tête farcie de parfums bizarres et de pierres à rabord. En ayant à laisser notre paix, notre santé, voire nos peurs. En incarné pour le soleil qui brille qu'à certaines heures. Qui fait qu'on a pareil et nos cœurs.
Percée de l'histoire.
Tiens!
Mais c'est pas vrai!
Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Ah ouais?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire. C'était Soldat Louis, Survivre en ennemi, bien sûr, un immense titre.
Exactement.
De la chanson
des vacances
française et même bretonne. On va tout de suite enchaîner, sans plus tarder, avec ce portrait d'histoire, ce fameux portrait d'histoire, en compagnie de Maëlle Leray, qui est donc médiateur du patrimoine au manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre. Attention, jingle.
Au moins, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout.
Le portrait d'histoire.
Un petit mot.
Merde.
Voilà. Et d'où venez-vous?
Merde.
Très bien.
Le principe du portrait d'histoire, donc, des questions toutes simples en rapport avec... c'est comme un portrait chinois, j'aime bien l'expliquer comme ça, mais un portrait chinois en version historique, tout simplement. Donc, première question, rien de plus compliqué, mais si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui?
Ah oui, oula.
Alors moi je vais répondre.
Ah, Gauthier, vas-y.
Non.
Eh ben je sais pas, je vais dire Bertrand du Guesclin, parce qu'il s'est marié dans le village où je suis né, et puis il a quand même mis des sacrés branlés aux Anglais.
Si vous deviez vivre à une période de l'histoire.
Pas à son époque du coup, pas le 14e siècle en pleine peste noire et guerre de 100 ans. Plutôt le 13e siècle, qui est plutôt un bel âge où il fait beau et il n'y a pas trop de guerre.
Ok, si vous étiez un monument historique, au hasard.
Un monument historique au hasard.
Vous n'avez pas le droit de répondre au manoir de la
Cour. Non.
Interdit.
J'aime beaucoup le château de Langeais dans le Maine-et-Loire.
Ok. Si vous étiez...
Non, c'est dans l'Indre-et-Loire, je crois. Pardon.
C'est un peu plus compliqué. Si vous étiez un costume historique.
Un costume. Alors, pas le costume du 15e tout moulant, là.
Ah bon.
Aucune idée. J'aime bien les costumes début 14e, là, qui sont plutôt sympas, pas trop cintrés, avec des vrais pantalons.
Si vous étiez une invention historique.
Une invention historique. La roue.
Ok. On l'avait pas déjà eu.
Deuxième fois. C'est qui avait dit ça? C'est qui voulait être une roue?
Non.
Un vieux briscard, je pense.
Je me souviens même plus. Dernière question qui n'a rien à voir, mais si vous aviez un super pouvoir. Ça, c'est la question finale.
Piège, ouais.
C'est un truc que j'ai souvent rêvé, c'est de pouvoir remonter dans le temps et de pouvoir revenir aussi. Parce que j'ai pas forcément
de ne pas rester coincé dans le temps.
Ouais, voilà, aller voir un peu. Il y a des fois des questions, ça nous taraude, on sait qu'on ne pourra jamais y répondre. Et du coup,
et donc d'aller vérifier.
Petit tour, ouais.
Petit aller-retour.
Je pense que c'est 85% de réponses.
Mais là, on a le retour dans le temps. C'est la première fois, la version.
Revenir, parce que c'est vrai que peut-être que tous les gens, à chaque fois, voulaient rester coincés.
Mais les archives ne serviraient plus à rien.
Les archives. Ah oui, j'ai entendu archer.
Ouais, mais c'est chiant dans les archives.
Ouais, mais pas pour tout le monde, juste pour moi.
Ah, et voilà. Ah, bah non. Sinon, c'est pas drôle.
Bravo, vous vous démerdez.
En tout cas, on vous conseille donc d'aller voir cette exposition et même le manoir de la cour, tout simplement, à Asnières-sur-Vègre. Il y a vraiment de quoi faire et de quoi voir, donc n'hésitez pas. C'est un très très beau monument. C'est 5 euros évidemment pour la visite du manoir et puis l'exposition est gratuite, donc n'hésitez pas à aller en profiter. Toutes les informations sont sur le site internet aussi, parce que j'ai pas dit, il y a un site internet où vous verrez donc toutes les informations. N'hésitez pas encore une fois à suivre sur les réseaux sociaux Manoir de la Cour, Facebook et Instagram, pas encore Twitter, un jour peut-être ou pas, parce que de toute façon c'est du temps, ça on le sait. Et puis voilà, merci Maëlle Leray d'avoir été notre invitée. On se retrouve
vendredi.
Vendredi, oui, voilà. C'est déjà sorti de mon cerveau.
Qu'on l'oublie de...
Vendredi, grosse émission en direct du musée du Carré Plantagenêt au Mans, où on fera donc une très grosse émission d'une heure et demie sur l'exposition l'enceinte romaine, pas la muraille, puisque c'est une enceinte romaine en compagnie de plein d'intervenants. Ouais, donc
trois plateaux,
n'en rajoute pas.
Trois plateaux, 50 invités,
voilà, et 1500 personnes en public. Bref, ça c'est vendredi, donc c'est dans deux jours. N'hésitez pas à suivre ça, et puis ce sera de 15h30 à 17h si tout se passe bien. Bref, bonne soirée à toutes et à tous, merci de nous suivre jusque là, et donc à vendredi, et pour la semaine prochaine, on verra. Mais déjà, à vendredi.
À vendredi.
Voilà, bonne soirée à toutes et à tous.
À vendredi.
Au revoir.
C'est une révolte.
Non, sire. C'est une révolution.
Je vous ai compris. I have a dream.
Vive la nation !
Vive la nation !
Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir! Il faut reste groupir! Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit groupir!
But alors, you are French?
Et toc, remonte ton scribard, Lothar.
Monsieur! Un sarrasin!
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle.
Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.